otprilike kažem nekoliko reči o gospodinu Kennethu Whiteu, a pre toga naravno želim da se zahvalim Francuskom kulturnom centru koji je nesebično pomogao da gospodin White dođe ovde uz sve naše tople želje i zadužbine Ilije Kolarca i svim ljudima i ekipama Francuskog kulturnog centra kao i Centra za geopoetiku koji su pokušali da dovoljno dobro pripreme ovaj dolazak i da u što kraćem roku što više toga gospodin Kenneth White vidi, čuje i svi mi od njega, naravno. Ne bih upotrebio standardnu biografiju za gospodina Whitea, jer ona meandrira kao u ostalom i njegov rad u najsvetlijem i najpozitivnijem smislu. Verovatno mi je poznato da se može pohvaliti da maltene ima svoja dva jezika, dakle izvorni engleski i francuski kao jezik koji je odabrao za svoje govorno područje. Večeras će govoriti na francuskom, a predavanje, kao što znate, ima naslov koji ste već svi pročitali, ali ja da ne bih pogrešio, ću pročitati da je to Otvoreni svet, jezik, mesto, kultura. Le monde ouvert ili otvoreni svet je nešto što jeste i početak i kraj onoga što mislim da je Whiteov rad. On se možda po formi samo razlikuje u toliko što je pošao od jedne putanje koja je u stvaralačkom smislu, umetničkom, dakle žanrovskom, išla od poezije, proze i onoga što bismo slobodno mogli zvati putopisi, ali nikako i našavši adekvatnu reč za knjige koje ćemo tek, nadam se, videti na našem jeziku. Centar za geopoetiku iz Beograda je začeo njegovo stvaralaštvo na srpskom jeziku od pozadi i koliko već znam, gospodin White misli da je i to geopoetika, krenuti od nazad. Mi smo možda ispravno mislili da nije loše da se ono što ja slobodno zovem teorijom geopoetike pojavi prvo na ovom jeziku iz jednog jednostavnog razloga što su ove knjige, dakle Nomadski duh, objavljen pre dve godine, i Visoravan Albatrosa sa podnaslovom Uvod u geopoetiku, koja je izašla upravo za dolazak gospodina Whitea, knjige koje zapravo jesu posledica više od 20 godina iskustva koje gospodin White imao baveći se geopoetikom. Možda smo išli i na jednu lepu lukavost. Ja očekujem da knjige koje opet uslovno zovem praksom geopoetike, koje ćemo, nadam se, kažem, objaviti, će biti u stvari možda neka vrsta krune ili neka vrsta nove logike ovakve meandrirane putanje, jer će uneti nešto što ove knjige ipak nemaju, kao i obrnuto, naravno. Dakle, biti kritičan prema onome što gospodin White radi je izuzetno teško i ja ću se zadržati samo na spoljnim elementima onoga kako ja vidim ono što gospodin White radi. Dakle, ovo je jedna od retkih, po znacima navoda, institucija u čoveku kada on pokušava da celoga života radi ono što bismo mogli nazvati istraživanjem. To istraživanje podrazumeva i nauku i umetnost i vrlo racionalne i humanističke i društvene i prirodne nauke i sve ono što jeste ljudski um i što je ljudsko iskustvo. Preplitanje svih disciplina i žanrova jeste upravo ono što je zadatak, čini mi se, onoga što je gospodin White stavio pred sebe, a posledica toga jesu ove mnogostruko kompleksne knjige koje, čini mi se, da idu onim relativno poznatim sistemom analiziranja postojećeg i građenja tog analiziranog u jednu novu sintezu, dakle u zatvaranje jednog novog i stvaranje jednog novog kruga. Međutim, poenta tog rada, ja mislim da jeste u nedovršenom istraživanju, dakle u onome što jeste uslovni projekt, možda za sva vremena, možda za sve ljude, otvorenost upravo ovog istraživanja koje gospodin White pokušava da sprovede ovolike godine i jeste poziv na istraživanje svim drugim ljudima i utoliko se geopoetika na obostrano zadovoljstvo nikada nije mogla i nije smela nazvati dogmom, školom, pravcem ili ne znam kako bismo to već sve zvali. Dakle, reč je o oblasti ljudskog uma koji podjednako podrazumeva praksu, a kada govorimo o praksi, reč je o putovanjima svih vrsta, od, dakle, intelektualnih do, ili obrnutim redom, do pravih putovanja. Ono što se zove perceptivna moć, ja pretpostavljam da je to jedan od elemenata koji jesu važni za dobro viđenje novoga sveta. Reč je i o prirodi, reč je i o jednom novom sagledavanju sveta, ali i zemlje, kao i svega što se zove ljudsko nasljeđe. Bojeći se da sam već preterao, ja ću zamoliti gospodina Whitea da započne svoje predavanje sa naznakom da ovaj zajednički dolazak u organizaciji Francuskog kulturnog centra i Centra za geopoetiku ima za cilj da možda sa iz više uglova ili sa više strana, dakle dvema različitim večerima, pokuša da objasni i kaže nešto više o onome što Kenneth White radi, a ja, pokušavajući da budem objektivan, mislim da je to jedan od ljudi, malobrojnih ljudi, koji imaju nešto novo, zaista sveže i novo da kažu u ovom vremenu.
Ça va à peu près comme ça pour le son?
D'accord.
Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Dobro veče. C'est la limite de mon cerf, malheureusement. Mais je voudrais dire, en tout premier lieu, le plaisir que j'ai sincèrement à être parmi vous ce soir. J'ai déjà, comme l'a dit peut-être Vlada, j'ai déjà voyagé un peu de par le monde. J'ai des livres qui sont sortis dans des pays limitrophes, en Roumanie, en Bulgarie, et depuis 2-3 ans ici, en Serbie. Mais c'est la première fois que je me trouve dans ces parages et dans votre pays. Alors, j'ai déjà pu apprécier hier soir l'hospitalité serbe. Je vous remercie du fond du cœur de l'accueil que vous me faites. Et je peux dire en passant que le moment social, personne ne l'ignore, est extrêmement intéressant. Je suis ici pour la sortie de après l'esprit nomade, d'un livre qui s'intitule « Le plateau de l'Albatros », qui est une introduction à la géopoétique, publiée par le Centre géopoétique de Belgrade. Ce sont ces deux livres, des livres d'essais, des livres de pensée, des tentatives de pensée. J'aime beaucoup ce mot « essai », »,« essayer ». Ensuite, je partirai en voyage de Belgrade au Monténégro, en quelque sorte de la ville blanche à la montagne noire. Ce sera un itinéraire qui fera partie d'une autre sorte de livre, un livre voyage. Et peut-être, qui sait, il y aura des poèmes qui jalonneront le chemin entre ici, entre la Serbie et le Monténégro. Le sujet de ce soir n'est pas du tout la géopolitique, ça ce sera pour demain soir. Ici, la conférence a lieu sous l'égide du Centre culturel français de Belgrade. Et la conférence que je vais faire se situe dans un cadre général qu'on pourrait peut-être intituler « Culture et francophonie ». Il s'agit très spécifiquement, très précisément, de la tentative pour moi de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'un écrivain d'origine britannique, donc de langue anglaise, a choisi à un moment donné de s'installer en France ? Comment est-ce qu'il se situe entre deux langues, entre l'anglais et le français ? Et quelle utilisation ou quelle incidence ce mouvement entre deux langues a sur son écriture, sur son travail ? C'est une question spécifique. Mais j'essaierai de généraliser le plus possible. Et bien sûr, j'invite chacun et chacune d'entre vous d'extrapoler vers ses propres expériences et vers sa propre situation, vers son propre contexte, ce que je vais dire à propos du mien. Et le titre que j'ai choisi pour donner à cette conférence est celui-ci, « Monde ouvert, lieu, langue, culture ». Il s'agit là des 5 mots très très chargés, « Monde ouvert, lieu, langue et culture ». Donc quelque chose d'à la fois spécifique et, j'espère, le plus général possible. Ce n'est évidemment pas la première fois que l'on m'invite étant donné ma situation un peu paradoxale, qu'on m'invite à parler de ma situation de deux langues. Mais je peux vous dire, et je tiens à vous dire tout de suite, que je ne me suis pas contenté de venir ce soir avec une conférence, disons, que j'allais vous servir réchauffée. Pour deux raisons. D'abord, parce que j'aime toujours, j'ai horreur de me répéter, et j'aime toujours essayer d'avancer dans ma pensée. Donc chaque rencontre, chaque conférence est une possibilité, presque un défi pour moi, d'essayer d'aller un peu plus loin dans ma pensée. Donc je vais, en quelque sorte, penser à haute voix devant vous. Je vais tâtonner le long d'un chemin. Et puis la deuxième raison, c'est que à chaque fois que je me trouve dans un contexte précis, j'aime essayer de parler selon ce contexte, ou du moins avoir des références locales, avoir des références appartenant au pays où je me trouve. Malheureusement, je n'ai pas, au moment où je vous parle, beaucoup de références yougoslaves. Ça viendra, je peux vous assurer que ça viendra. Et si je suis venu ici, c'est pour proposer des idées, mais c'est aussi pour apprendre de vous et de ce contexte. Donc il n'y aura pas des références yougoslaves, mais il y aura des références slaves. En guise d'épigraphe générale à ce que j'ai à dire, je voudrais citer une phrase d'un auteur que beaucoup considéraient sans doute comme le plus autochtone, le plus authentique, le plus français des Français, le plus purement monolingue, diraient même certains, et je parle de René Descartes. Voici ce qu'on peut lire dans une lettre écrite par Descartes en 1648, dans une lettre qu'il a écrite à la princesse Élisabeth de Bohême. « Maintenant, comme je suis, un pied dans un pays et l'autre en un autre, je trouve ma condition heureuse, en ce qu'elle est libre. » Alors, voilà encore deux mots très très chargés, bonheur et liberté. Bonheur n'est pas une, c'est un mot qui court les rues, mais ce n'est pas une idée qui a été très approfondie. Saint-Just, au moment de la Révolution française, qui ne date pas de si longtemps que ça, disait que le bonheur était une idée nouvelle en Europe. C'est vrai qu'on s'est beaucoup occupé plutôt de tragédie, de fatalité. Hein? Et quant au mot liberté, voilà un des mots les plus difficiles de la langue, notamment dans ses rapports à la nécessité. Donc, encore des mots chargés. Pour me présenter un tout petit peu, mon ami Vlada Bajaj l'a sûrement fait, alors je dirais tout simplement, très rapidement, que je suis un écrivain d'origine écossaise, je viens d'Écosse, de Skotska. Celui-là, il fallait que je le sache quand même. Mais qui vit depuis presque 30 ans, pour des raisons que je dirai tout à l'heure, qui a décidé de vivre en France, de vivre et de travailler en France, et qui écrit dans les deux langues, mais pas indifféremment. J'utilise le français pour certaines choses et l'anglais pour d'autres. Je dirai ça aussi tout à l'heure. Si vous connaissez les anthologies de littérature anglaise ou française ou les histoires de la littérature, vous ne risquez pas de trouver mon nom. Parce que, en tant qu'Écossais en France, je ne fais pas partie du contexte spécifiquement français. Je suis en France, mais je ne fais pas partie de l'intelligentsia française, de l'establishment français. Et puis, en tant qu'écrivain installé en France et utilisant le français, et considéré comme plus continental que britannique, je ne fais pas partie non plus du contexte écossais ou britannique. C'est-à-dire que ma situation est paradoxale. Mais je proposerai que ce qui a marqué les choses parmi les plus intéressantes au XXe siècle, c'est le paradoxe. Le paradoxe fait partie de notre travail culturel le plus dynamique, le plus actif, à mon avis. Peut-être suis-je, peut-être, un écrivain européen de cette Europe culturelle dont on parle depuis au moins deux siècles, et qui reste à faire, et qui ne se fera pas d'ici demain matin, c'est sûr. Peut-être qu'on pourrait dire que je suis un écrivain mondial de ce monde ouvert dont je parle moi-même depuis un certain temps. Mais je dois dire que je m'occupe assez peu de ce que je suis. Ça ne me préoccupe pas beaucoup. Il me semble, et c'est encore une proposition que je fais, il me semble qu'en matière de création et de créativité, et j'y inclus vie créative, l'identité de l'être cède à un jeu d'énergie. C'est l'énergie de vie qui compte, pas l'identité. J'écris, pour commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet, pas ma personne, c'est le vif du sujet qui compte et l'activité, pas la personne. J'écris trois sortes de livres. une certaine forme de prose narrative. Je dis bien une certaine forme de prose narrative, pas exactement le roman. Ce n'est pas mon propos de définir ce genre de littérature ce soir, mais je lui ai donné un nom, et que ce n'est pas le roman. Disons des livres d'errance et de résidence, en anglais « waybook », en allemand « wegbuch », en français peut-être « livre itinéraire », pas « livre de voyage », vous voyez. Donc une certaine sorte de livre. Ensuite, j'écris des essais. Des essais, et l'essai pour moi est une manière rapide de penser, une manière rapide et poétique de penser. C'est ça l'essai. Je ne fais pas des traités de philosophie. Je fais des essais. Et à mon avis, une très grande partie, sinon la plus grande partie de la pensée française vive, a été faite sous forme d'essais, non pas de traités philosophiques. Descartes lui-même, c'est un essai. Valéry, ce sont des essais. L'essai français est quelque chose de primordial, à mon avis. Essayer de penser d'une manière nouvelle. Et ensuite, le poème. Le poème m'importe au plus haut point. Une certaine sorte de poésie, non pas la poésie du moi, non pas la poésie linguistique, la poésie du mot, mais la poésie du monde. Ni le moi, ni le mot, mais le monde. Et il m'est arrivé de présenter ce travail triple avec l'image d'une flèche. Les peines de la flèche qui donnent la direction, ce sont les essais. La tige de la flèche, ça, ce sont les livres narratifs, les livres itinéraires, les Wegbücher, Waybooks, ça c'est la tige. Et la pointe de la flèche, c'est le poème. Et j'ai besoin de ces trois sortes de livres. Alors une flèche, en principe, c'est fait pour atteindre un cible. Je vais parler tout à l'heure de ce cible, c'est-à-dire ce qui, pour moi, est à atteindre, l'horizon du travail. Parce que sans horizon, on ne vit pas et on ne travaille pas. Et avant d'en parler d'une manière plus précise, je voudrais encore une fois vous proposer une réflexion de Schopenhauer qui fait une distinction, à mon avis, assez utile entre deux sortes d'écrivains, et tous les deux peuvent être talentueux, mais à mon avis, il faut plus que du talent. Il fait une distinction entre des écrivains qui visent un but que la société ambiante reconnaît. Il travaille avec son talent vers un but que la société reconnaît. C'est-à-dire qu'il utilise les éléments communs, il utilise les éléments connus et il les arrange d'une manière originale. C'est l'originalité qui fait son talent. Mais l'originalité à l'intérieur d'un cadre commun, sinon stéréotypé. Et il y a les autres écrivains, plus rares, qui visent un cible que la société ne reconnaît pas encore. Parce qu'il utilise les éléments, des éléments que la société ne voit pas encore. Et ça, c'est le vrai travail créatif qui fait avancer la société. Alors, je parlais de cible, de ce qui est à atteindre, l'horizon vers lequel on sent qu'on peut aller. Et aucune société, aucune culture, aucune vie ne peut continuer sans cela. Le premier concept que moi j'ai utilisé pour décrire le monde que j'envisageais ou que je sentais émerger, que je sentais pointer, c'était le monde blanc. Alors, pourquoi le monde blanc? Très rapidement, pour vous montrer tout de suite le sorte d'éventail dans lequel je travaille. Bon, le monde blanc, évidemment, c'était un monde, c'était un espace où je me sentais chez moi. Je m'appelle Kenneth White. Le monde blanc, c'est là où j'étais à l'aise, là où je me sentais pas mal à l'aise, comme on peut se sentir très souvent dans des contextes sociaux, dans des contextes institutionnels, dans des contextes politiques. C'était un espace où je me sentais à peu près chez moi, où je sentais un certain bonheur. Donc, c'était ça, le premier sens. Ensuite, en approfondissant le pays où je me trouvais, et chaque pays est à approfondir, en général on a une conception très superficielle de tous les pays où nous vivons, l'ancien nom de l'Écosse, qui a été couverte de caricatures et de clichés depuis au moins deux siècles, son ancien nom était le Pays Blanc, Alba. Ici à Belgrade, bien sûr, Alba, Albe, c'est sans doute le nom de lieu le plus fréquent dans toute l'Europe. On le trouve dans les Alpes, on le trouve en Albanie, bien sûr, hein. Et on peut le trouver ici à Belgrade, comme vous le savez, au Moyen-Âge, le nom que l'on donnait à Belgrade, c'était Alba Graeca. Ensuite, en approfondissant la culture, parce que la culture dans laquelle je me trouvais avait été superficialisée par l'histoire. Et il fallait creuser pour trouver une culture avec des énergies. Et en creusant la culture superficielle écossaise, avec ses clichés, avec ses images d'Épinal, avec ces images hollywoodiennes, Hollywood est en train d'en faire, justement, d'exploiter beaucoup le côté cliché de l'Écosse, il y a deux ou trois films en ce moment, qui sont navrants, de nullité, pour ce qui est de la culture écossaise. On trouve le chant celte, la culture celte, là encore très caricaturée, horriblement caricaturée. Et bien sûr, je me rendais compte que les Celtes n'étaient pas natifs de l'Écosse ou du Pays des Galles ou d'Irlande, mais qu'ils avaient traversé toute l'Europe. Donc à partir de son petit lieu, et moi c'était un petit village sur la côte ouest de l'Écosse, un tout petit village de 1000 habitants, on peut, en suivant des pistes, agrandir son monde. Et on n'a pas quitté ses racines, on les a simplement prolongées. Ce n'est pas le débat enracinement, déracinement. Racines, d'accord, mais de longues racines. Et ensuite, une autre raison pour ce nom, Mont Blanc, que je m'étais donné à un moment donné quand j'avais 25 ans, c'était qu'en m'intéressant à la culture extrême orientale, notamment le bouddhisme zen, à une certaine culture japonaise, là, l'identité suprême, l'être au monde suprême, est décrit comme un héron blanc à la clarté de la lune. Un héron blanc à la clarté de la lune, c'est-à-dire là où il n'y a presque aucune division entre vous et le monde. Vous êtes presque en osmose, on ne l'est jamais complètement, mais il y a presque identité, il y a un moi-monde. Donc toutes ces raisons étaient là pour que j'appelle mon but le monde blanc. J'ai arrêté de l'appeler comme ça parce que tout d'un coup je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui prenaient cela comme un mythe, alors que je n'ai pas de pensée mythique. Il y en a qui le prenaient pour une sorte de religion, et je ne suis pas en train de proposer une religion. Donc je laisse tomber ça. Et depuis un certain temps, le champ général que je vois comme une possibilité d'ouverture, c'est ce que j'appelle le champ de la géopolitique. Comme je disais, c'est le sort du livre qui sort, c'est le sujet du livre qui sort ces jours-ci, ce n'est pas le sujet de la conférence ce soir. Ici, il s'agit de langue. Si vous êtes ici, c'est sans doute que d'une manière ou d'une autre, vous vous intéressez à cette question de lieu et de langue et partant de culture. Donc il s'agit ici de deux langues, anglais, français. Mais comme je disais, je vous invite à extrapoler vers d'autres situations linguistiques, frontalières. J'ai parlé de trois sortes de livres que j'essaie de faire, l'essai, la prose narrative et le poème. Et j'ai dit aussi que j'écris en deux langues, le français et l'anglais. L'anglais et le français, mais pas indifféremment. En fait, c'est uniquement l'essai que j'écris en français. J'utilise le français, j'écris le français uniquement pour les essais, pour la prose narrative et pour le poème, j'écris en anglais, toujours en anglais. Pourquoi ? Bon, certains diront facile, facile. On va me répondre tout de suite, le français est la langue de la raison, de la précision, de l'analyse. Et l'anglais est plus poétique. Il y a beaucoup de Français qui disent ça. Et moi, je dis toujours non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas Voltaire d'un côté et Shakespeare de l'autre. Ce n'est pas si simple. Beaucoup plus complexe. Voici Saint-Jean de Perse, sans doute un des très grands poètes français du XXe siècle, mais certainement un des très grands poètes français du XXe siècle. Voici Saint-Jean de Perse, assistant à une représentation d'une pièce de Racine en Polynésie. Pièce dite par des fillettes Tonga qui ne comprenaient pas ce qu'elles disaient. Mais elles avaient bien appris leur leçon et Saint-Jean de Perse écoute le français en Polynésie et dit ceci. Jamais je n'ai si bien compris le miracle de cette langue française dont le pouvoir magique est trop souvent méconnu au bénéfice de son seul génie analytique. C'est vrai qu'il y a une force poétique, il y a une énergie poétique française. Des mots comme miracle et magique ne font pas partie de mon vocabulaire. Et je préfère éviter ce genre de concept, mais dans l'ensemble, je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Saint-Jean de Perse. Donc, on est en train de parler d'une dialectique entre le français et l'anglais. Et voici des premières approches, des premiers éclaircissements. Je pourrais peut-être dire, dans un premier temps, étant donné que la langue française est pour moi une acquisition, tandis que la langue anglaise est une croissance, hein, la langue étrangère est une acquisition toujours, tandis que la langue natale croît, on ne l'acquiert pas, ça croît en nous. On pourrait dire donc, étant donné cette situation, que j'utilise le français alors que je vis l'anglais, que le français pour moi est un outil, tandis que l'anglais est un corps. Avec l'anglais, avec ma langue natale, j'invite à l'extrapolation, avec l'anglais j'ai fait ce que je veux, pas n'importe quoi, mais j'ai fait ce que je veux. Avec le français, non seulement j'en suis moins capable, Je ne peux pas me le permettre.
De faire ce que je veux.
Je me rappelle une conversation avec un écrivain français d'origine roumaine. Il s'agit de Cioran. On était chez lui dans sa mansarde du 6e arrondissement, parce que Cioran, quittant sa Roumanie, ne voulait pas vivre en France. Il ne voulait pas vivre à Paris. Il voulait vivre au 6e arrondissement. C'était très précis. Donc, j'ai discuté avec Cioran, et il me disait, Cioran, comme vous le savez, écrivait un français du 17e ou du 18e siècle, parfait. Il me disait, ce qui m'embête, c'est qu'en français, je suis obligé d'être correct. En effet, si un français n'est pas correct, entre guillemets, on va dire, les critiques vont dire, les lecteurs peut-être vont dire, quelle liberté, quel style intéressant. Tandis que si un étranger se permet de ne pas être correct, le français va dire, qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu qui prétend écrire la langue française ? Ça. Je pourrais dire aussi, en tant que première approche, que pour moi, dans ma pratique, le français est la langue de l'exposition, je le lis ce soir, dans un but d'exposer, tandis que l'anglais est celle de l'exploration. L'anglais est la langue que j'utilise quand je veux tourner autour de la racine des choses, quand je veux des choses souples et sensuelles et concrètes et juteuses et pleines de sève. Le français est moins apte à ce genre de choses, en grande partie parce qu'il a larguer une partie de son vocabulaire sensuel du XVIIe siècle. Il a fallu beaucoup de travail de la part de Victor Hugo et d'autres pour remettre en français ces mots écartés, jugés vulgaires, pas décents dans le contexte versaillais. Le français s'est purifié au XVIIe siècle et cette purification a donné des résultats merveilleux, mais peut-être a amené à un approfondissement du vocabulaire. Malgré le fait que je suis de plus en plus bilingue, on ne peut jamais dire ça à 100%, mais je crois que je continuerai donc à utiliser le français et l'anglais de cette manière. Bon, le troisième raison pratique, c'est que si j'ai quitté à un moment donné avec perte et fracas, et je dirai tout à l'heure pourquoi, le contexte britannique, je savais qu'un jour j'allais y revenir. Et cela m'aurait beaucoup ennuyé d'avoir à traduire moi-même tous mes livres. Donc, je les écris en anglais et je les fais traduire par des Français, tout récemment par une Française, Marie-Claude White, qui est aussi mon épouse, qui est une formidable traductrice, parce que les Français le font mieux que moi. Et aussi, ça m'aurait beaucoup gêné de me voir traduit en anglais par quelqu'un d'autre. Ça m'arrive de temps en temps que, quand une revue, par exemple, récemment, enfin, il y a 2-3 ans, la revue Atlas d'Air France m'a demandé un texte, et on m'a demandé bien sûr de l'écrire en français, enfin on ne m'a pas demandé de l'écrire en français, ça allait de soi que j'allais l'écrire en français, mais comme vous le savez, la revue Atlas donne aussi des résumés en anglais, et même un résumé en anglais de mon texte me gênait beaucoup. J'aurais pu faire le résumé en anglais aussi. Donc j'aborde avec toutes ces premières propositions, et pour le moment je tourne en quelque sorte autour du champ, j'essaye d'aborder un champ linguistique et poétique complexe. Après avoir déployé la carte de la problématique, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un itinéraire. Moi, je pense beaucoup en termes de chemin, de cheminement. Et je vais vous proposer un itinéraire autour de 5 lieux. 5 lieux. D'abord, il y aura un petit village en Écosse, le sens de la langue que j'avais à cette époque-là. Ensuite, il y aura une grande ville industrielle et mégapolitaine, Glasgow, grande ville portuaire. Ensuite, il y aura Paris. Ensuite, les Pyrénées, la montagne, la méditation dans la montagne. Et pour terminer, le promontoire armoricain, communément appelé la Bretagne. Donc d'abord, un petit village sur la côte ouest de l'Écosse et la sensation de la langue dans ce contexte. Dans l'espace où j'habitais et dans le contexte où j'essayais d'évoluer, voilà encore un mot que j'aime bien, évoluer, on pouvait distinguer 3 groupes de signes, 3 contextes linguistiques. Moi, je le sentais confusément au début. Il m'a fallu des années pour y voir clairement, bien sûr. Mais au début, j'avais ces sensations confuses. Il y avait d'abord les rues du village. Ensuite, il y avait la cabine à signaux où travaillait mon père, qui était signaleur au chemin de fer. Une cabine à signaux. Et il y avait l'arrière-pays du village. 3 contextes. Alors, dans les rues du village, quand j'avais 13, 14 ans, à peu près, j'écoutais les gens parler. J'aimais beaucoup écouter ce qu'ils disaient et comment ils le disaient. Mais j'avais la conviction croissante et presque angoissante que personne ne comprenait personne. Que les gens se parlaient, que les phrases partaient dans tous les sens, que les conversations d'une heure ne menaient à rien. Et ça me désolait, ça me donnait des angoisses. Je me disais que la communication humaine est impossible. Aucun argument n'aboutissait, tout se perdait dans le mou et le flou, dans du bavardage. Alors c'est pour sortir de cette situation-là, de sortir de cette sensation qui me mettait très mal à l'aise, que j'ai commencé à écrire, en fait. Et ce que je faisais, moi j'ai commencé à écrire en faisant des dialogues. J'écoutais les gens, leur dialogue ne me satisfaisait pas, alors je refaisais les dialogues. Je rentrais chez moi et j'essayais d'écrire les dialogues en les mettant au clair avec les paroles et les gestes, parce que les gestes peuvent dire presque autant quelquefois que la parole, la lueur dans les yeux, etc. Et ces textes, une fois écrits, je les mettais dans une boîte, une vieille boîte à biscuits en fait, et quand la boîte était pleine, je la vidais dans la poubelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune prétention à la création, il y avait le désir d'y voir clair. C'était la première motivation vers l'écriture pour moi, essayer d'y voir clair. C'est-à-dire que la précision et la clarté sont des choses qui ne sont pas étrangères. Au contraire, ce sont des choses qui me fascinent. Et je trouve que, effectivement, la poésie pour moi, qui pour beaucoup est le flou, le vague et l'imprécis par excellence, non. Pour moi, la poésie doit avoir toute la force de la prose, plus quelque chose. Premier contexte, donc, est celui que je viens de décrire. Deuxième contexte, c'était la cabine à signaux de mon père. Cabine à signaux, lieu de code extrêmement précis. On ne pouvait pas se tromper. Si on se trompait, il y avait des désastres, il y avait des catastrophes. Il fallait que le message soit donné avec une précision absolue. Cela me fascinait. C'était, pour parler un langage qui allait venir beaucoup plus tard, c'était un contexte sémiotique pur, absolu. Alors, on ne peut pas vivre tout son temps dans un contexte sémiotique absolu. Mais cette idée de signaux absolument précis, comme dans les mathématiques, me fascinait. Et le troisième groupe de signes, le troisième contexte linguistique, c'était l'arrière-pays du village. Le contexte non social. Le contexte, disons naturel, pour parler vite, parce que c'est encore un mot très difficile à utiliser, mais disons le contexte non social. Ça, c'est précis, au moins. Où il y avait d'abord des fermes, ensuite des champs, ensuite des bois, ensuite des collines, ensuite des montagnes, et des animaux. Et moi, j'essayais de lire, en quelque sorte, les écorces des arbres, les marques sur les pierres, et j'essayais d'entrer en conversation avec les animaux, avec les oiseaux. Par exemple, j'allais dans la forêt, j'avais 13, 14 ans, et j'essayais de parler avec les hiboux, comme ça, enfin, je vais essayer. Et les hiboux répondaient. Sans doute qu'ils disaient, qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui ne sait pas parler hibou, mais il y avait une correspondance, il y avait un écho. Lui, il me répondait. Donc j'avais la sensation, quoi. J'avais la sensation d'étendre ma langue humaine. Et ça, c'est le désir de l'humanité depuis le début de l'humanité. Étendre sa langue, étendre son être. Pourquoi est-ce que dans la culture africaine, il y a des masques, dans la culture polynésienne, dans presque toutes les cultures du monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des masques? Parce que l'être humain veut être plus qu'humain. Il veut être animal. Pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, Böhme parlait de la langue des oiseaux? C'est pour la même raison. Le désir d'étendre le langage humain, de ne pas être confiné dans le contexte social et humain, de trouver une langue qui soit à la mesure du monde. Ça, c'est le rêve de l'humanité. Trouver une langue à la mesure de l'univers. Ah, voilà donc les trois contextes avec lesquels j'ai commencé à travailler. Ensuite, il y a eu, à l'âge de 12 ans, comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai 12 ans de retard sur un français d'origine. Et ça compte. Mais l'apprentissage du français donc a commencé pour moi à 12 ans, et vous tous ici, ou beaucoup d'entre vous, ont fait le même apprentissage. Il s'agissait bien sûr de phonétique et des grammaires, pour commencer. Et la phonétique, qu'est-ce que la phonétique? C'est la gymnastique buccale. C'est une gymnastique musculaire, buccale et nasale. Nasal, surtout pour le français. Moi, j'avais l'impression de mieux parler français quand j'étais enrhumé. Je sentais que ça allait mieux. Peut-être que vous avez eu la même sensation. Ensuite, bien sûr, la phonétique, vous avez eu je ne me rends pas compte linguistiquement quel est le problème ici, mais en anglais, quelqu'un a beaucoup de problèmes pour prononcer le U. Alors les professeurs de français sont toujours en train de dire « dites U » et ensuite essayer de dire « I ». « U »,« I »,« U ». Donc, on passe 3 mois à essayer de dire « U ». Et ça, c'est bon, parce que c'est une gymnastique, et toute gymnastique est un assouplissement du corps. Donc, on est en train d'étendre ses possibilités par cette phonétique. Je me rappelle, lisant quelques écrivains russes, ils ont des choses très intéressantes à dire sur la phonétique. Gontcharov, par exemple, à propos du Yakout, à un moment donné, il traversait le pays Yakout, et il parle de, en Sibérie donc, ces sons qui demandent la participation non seulement de la gorge, de la langue, des dents, des joues, mais des sourcils et du front et même des cheveux. Alors moi, j'ai essayé de parler le français avec mes dents, mes joues, ma gorge, ma langue, mon front et mes cheveux. Aussi Mandelstam, dans son voyage en harmonie à propos de l'arménien, il dit ceci de manière générale. Le minerai phonétique de l'Europe et de l'Amérique se tarit. Ces gisements ont des limites. Aujourd'hui déjà, des jeunes gens lisent Pushkin en espéranto. À chacun ses goûts. Mais quel terrible avertissement. Et à propos de la langue arménienne, il parle de mots aux murs épais, de minces couches d'air dans les demi-voyelles. Il parle du charme de l'arménien. J'ai connu la joie de prononcer des sons interdits aux lèvres russes. Secrets, réprouvés et peut-être même à une certaine profondeur, honteux. J'avais l'impression, avec le français, effectivement, de prononcer des sons différents et de découvrir une autre partie de moi-même. Ensuite, après la phonétique, la grammaire. Bon, par rapport à l'anglais, on ne peut pas dire que l'anglais n'a pas de grammaire, mais l'anglais a moins de grammaire, moins de structure grammaticale que le français. Le français a une structure grammaticale très, très forte. Par exemple, beaucoup plus tard, quand j'ai travaillé avec mes premiers traducteurs, j'avais beaucoup de problèmes. Le français est une langue très architecturée, très architecturale, tandis que l'anglais est beaucoup plus énergique, quantique presque. Hein, c'est... Il y a des paquets d'énergie, tandis que le français, c'est l'architecture. Par exemple, moi, je pouvais écrire « il a fait ça, et puis il a fait ça. Il a fait ça, puis il a fait ça. » Ça, c'est mon anglais. Des mouvements énergiques. Tandis que mes premiers traducteurs, pas celle dont je parlais tout à l'heure, qui connaît tout ça au bout des doigts et qui traduit merveilleusement, avec mes premiers traducteurs, ils avaient tendance à dire, pas « il a fait ça, puis il a fait ça », ils avaient tendance à dire « après avoir fait ceci, il a fait cela ». Ah oui, et c'est beau, mais on a perdu l'énergie. Alors comment réunir forme et énergie? C'est un problème poétique. Moi, je crois que, et j'entrerai plus dans le détail tout à l'heure, mais justement, naviguer entre deux langues est un enrichissement réciproque. Par exemple, l'anglais, par rapport au français, est plus mou, ça c'est son côté négatif, mais plus flexible, ça c'est son côté positif. Le français, par rapport à l'anglais, est plus précis, c'est son côté positif, mais un peu rigide, c'est son côté négatif. Et en utilisant les deux, on peut arriver, c'est mon souhait, je ne dis pas que j'ai réussi totalement, mais on peut vouloir, désirer, affermir son anglais d'un côté. Moi, j'écris, je crois, un anglais différent depuis que je pratique le français. C'est encore de l'anglais, mais c'est un anglais moins flou que n'est souvent l'anglais. Et en même temps, assouplir son français. Il y a des écrivains français au XXe siècle qui se sont donné pour tâche d'assouplir le français, d'une manière ou d'une autre. Céline, par exemple. Et ensuite, bien sûr, il y avait la poétique, ces phrases qu'on peut trouver dans des textes qui font exploser votre cerveau et qui vous font entrer dans des dimensions existentielles, intellectuelles, inédites. Moi, c'était Victor Hugo, par exemple, bon, lisant Victor Hugo à 16 ans, « L'Atlantique ronge nos côtes, la pression du courant du pôle déforme notre falaise ouest. » Voilà, du français magnifique. Montaigne, j'aurais dû commencer par Montaigne. Montaigne, il y a une phrase de Montaigne. Montaigne est un des grands écrivains français, bien des plus beaux, mais il y a une phrase de lui qui, à mon avis, sa meilleure phrase, elle est d'une simplicité absolue, et c'est le français à son plus beau. quand les vignes gèlent en mon village, quand les vignes gèlent en mon village. Je le cite, je ne le commente pas, c'est trop beau pour être commenté. C'est du français, parfait. André Gide, grand chant, baigné de la blancheur de l'aube, ou bien Rimbaud, bien sûr, qui parle de l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Là, il y a une poétique très, très forte en français. Le français n'est pas qu'une langue rationnante, analytique. Voilà donc le premier contexte. Sensation générale de la langue et apprentissage du français. Deuxième contexte, la grande ville. Grande ville portuaire, politico-économiquement, connaissant les derniers stades de la révolution industrielle. Les derniers stades. Moi, j'habitais, n'ayant pas beaucoup d'argent, j'habitais une série de meublés tout à fait sinistres. Et Glasgow me rappelait un peu le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski. Je me sentais tout à fait chez moi dans les romans de Dostoïevski. Et tout en étudiant à l'université le français, l'allemand, le latin et la philosophie, j'avais deux préoccupations générales à travers ces études, donc de langue et de philosophie. Et mes deux préoccupations étaient le rapport entre l'individu et la société, question fondamentale, et l'autre était annexe, un peu plus défini, c'était le rapport entre le localisme, le nationalisme d'un côté, et l'universalisme, le cosmopolitisme de l'autre. C'était la deuxième question que je me posais. Et c'était bien sûr la préoccupation même de la Russie de Dostoïevski, et notamment bien sûr de Dostoïevski lui-même. C'était un débat, la polémique entre les slavophiles d'un côté et les occidentalistes, les Européens de l'autre. Et Dostoïevski, comme vous le savez, s'élève fermement, du moins dans un premier temps, on verra tout à l'heure que c'est beaucoup plus complexe, la polémique est toujours un peu simpliste, il s'élève contre l'occidentalisme, il s'élève contre l'Europe, parce que l'Europe pour lui c'est la France, c'est la langue française. L'Europe pour lui est représentée par les francophiles russes et par les francisans. Dans le journal d'un écrivain, il entre dans la polémique. Il parle de le dommage qu'entraîne l'adoption dès la première enfance d'une langue étrangère au lieu de sa langue natale. Il parle d'intellectuels russes qui sont des esclaves de la pensée française. Il condamne leur pauvre tête au sort lamentable de n'avoir pas, durant toute leur vie, une seule idée originale. La langue française, pratiquée dès le premier babi, dit-il, le mal ne sera pas grand si l'individu est sot de nature. Sa vie durant s'écoulera dans l'exercice de la langue française avec des idées microscopiques, avec des plaisanteries et du bas-goût, et il mourra sans être jamais douté qu'il n'était qu'un imbécile. Très dur, Dostoïevski. Mais, dit-il, si l'homme a des capacités, si l'être humain a des capacités, quelques idées dans la tête, des aspirations dans le cœur, pourrait-il ainsi être heureux, manquant de matériaux pour étayer solidement sa pensée, en possession toute sa vie d'une langue morte, blafarde, empruntée, pauvre et artificielle, qui ne parviendra jamais à rendre ductile et maniable, il s'usera en efforts impuissants pour tenter de lui faire exprimer ce qui se passe dans son âme. Alors c'est ce qui était arrivé, selon Dostoïevski, en Russie, à cause d'une certaine hégémonie chez les intellectuels du français. L'intellectuel russe n'est pas autre chose aujourd'hui qu'un prolétaire spirituel, un déraciné à qui le sol manque sous ses pieds, un médiocre international emporté par tous les vents de l'Europe. Un médiocre internationaliste aux idées tronquées et fausses, au jugement tout d'une pièce, est buté. Alors moi qui parle en termes de monde ouvert, on pourrait croire que Dostoïevski est mon ennemi. Pas du tout. Je continue à suivre son raisonnement, sa pensée, parce qu'il n'a pas tort. Il y avait une certaine couche de la population russe qui, effectivement, entrait dans ses travers. Une seule d'entre ces intelligences, dit-il, a-t-elle jamais scruté le fond des choses? Et Dostoïevski a une petite tendance, à un certain moment, de dire que la vérité est dans le peuple, il va vers l'identité populaire et toute une pensée, on dirait qu'il va vers le populisme évangéliste, vers le nationalisme culturel, vers l'idéologie identitaire, vers l'enracinement. On pourrait le croire, Et il y a une petite tendance chez lui, mais c'est une tendance seulement. Parce que si on regarde de plus près, on dépasse tout de suite le débat. Et on entre dans un champ beaucoup plus complexe. D'abord, Dostoïevski n'est pas du tout contre l'apprentissage d'une langue étrangère, au contraire. À cette langue étrangère, dit-il, nous emprunterons insensiblement les quelques formes absentes de notre langue. Aucune langue n'est parfaite, aucune culture n'est parfaite. On a besoin de compléter sa culture par des influences. On a besoin de compléter sa vie par les influences. Il n'y a pas de vie sans influence. Il n'y a pas de culture sans influence. À cette langue étrangère, nous emprunterons insensiblement les quelques formes absentes de notre langue et nous nous incorporerons d'une manière tout aussi involontaire et insensible aux formes de notre pensée. Et par là même, nous nous enrichirons. Et sa sensation générale de la langue, c'est que plus cette matière linguistique est riche, plus les formes de pensée choisies pour l'exprimer sont multiples, plus je serai heureux dans la vie, responsable envers moi-même et envers les autres. On dépasse le polémique, on dépasse le débat et on entre dans une œuvre. Les œuvres dépassent les débats, dépassent les polémiques. Et l'œuvre qui fascine Dostoïevski, et à juste titre on le comprend, c'est l'œuvre de Pouchkine. Et dans son discours sur Pouchkine, bon, il reprend son analyse que je viens de présenter avec cette petite tendance vers le populisme évangéliste, mais il va vers une synthèse en disant que le peuple russe a au contraire une tendance vers l'universel et que c'est en essayant d'être encore plus lui-même qu'il sera encore plus universel. Que le russe qu'il envisage est doué d'une faculté de résonance universelle. Qu'est-ce que la puissance de l'esprit national russe ? Sinon sa tendance à l'universalité, à l'intégralité humaine. Et il dit, être un vrai russe, et on peut extrapoler, ça n'est pas vrai seulement pour les russes, être un vrai russe, c'est être un pan-humain, un pan-human. Et il continue, tout notre slavophilisme et notre occidentalisme n'est qu'un grand malentendu. Et beaucoup de conflits viennent d'un malentendu, effectivement. C'est cette confusion, ce manque de communication dont je parlais tout au début. Pouchkine, dit-il, est au-delà de ça. L'œuvre de Pouchkine se situe dans une autre dimension. Et, je ne vais pas entrer dans l'œuvre de Pouchkine ce soir, bien sûr, mais Dostoïevski relève dans l'œuvre de Pouchkine deux figures. Et ce sont deux figures qui m'intéressent, puisque je disais qu'un des problèmes qui m'intéressait, au-delà de cette question de la localité et de l'universalité, l'autre question était de l'individu et la société. Et Dostoïevski relève dans l'œuvre de Pouchkine deux types anthropologiques, deux figures anthropologiques. D'un côté, le moine chroniqueur. Le moine chroniqueur, c'est-à-dire le solitaire. Le solitaire qui se dissocie de la société afin d'avoir une vue globale. Le moine chroniqueur. Première figure. Et je crois qu'une certaine distance, à un moment donné, de l'itinéraire de chacun, une certaine solitude est nécessaire, une certaine distance prise. C'est absolument nécessaire. Ce n'est pas toujours facile. C'est même quelquefois très difficile, mais c'est un passage absolument nécessaire. Donc le moine, un moine laïque, on n'est plus en train de parler en termes religieux. Je voudrais relever autre chose chez Pouchkine que Dostoïevski ne relève pas. En fait, lui, il relève le moine chroniqueur. Je voudrais relever une autre figure. Je voudrais faire remarquer seulement, c'est une question de langue, c'est une question de mots, que le héros de Pouchkine, Eugène Onéguine, si on veut, Onéguin, porte le nom d'une rivière. Une rivière du nord de la Russie, Onéga. Et il est intéressant de penser qu'un autre écrivain russe qui a suivi les traces de Pouchkine, comme presque tous les écrivains russes, du moins pendant longtemps, le héros de Lermontov, car Lermontov était d'origine écossaise, était Learmont. Dis ça entre parenthèses, aucune importance. Le héros de Lermontov, Grigori Alexandrovitch Pechorin, lui aussi porte le nom d'un fleuve. Et ce n'est pas pour rien. Ces mots fleuves, ces noms fleuves, ces hommes fleuves, Onéguine et Pechorin, indiquent, me semble-t-il, ou du moins c'est ma lecture, que la source est importante, certes. Il n'y a pas de fleuve sans source. Mais aussi important est là où va le fleuve.
et qu'à partir de sa source, l'eau suivant sa trajectoire va creuser un lit, va constituer un fleuve. Ce fleuve va passer par toutes sortes de terres, par toutes sortes de parages, par toutes sortes de contextes, va s'enrichir au fur et à mesure et va pouvoir, à la fin de l'œuvre, à la fin d'une vie, déboucher dans l'océan. Il y a toute une lecture, à mon avis, à faire de cette manière, de ces non-fleuves. Ensuite, après Glasgow, Paris. Moi, j'avais ajouté au français l'allemand, et celui qui m'intéressait le plus en allemand, c'était Nietzsche. Mais je n'étais pas infidèle au français en me plongeant dans Nietzsche, parce que s'il y a un philosophe francophile, s'il y a un écrivain francophile, c'est bien Friedrich Nietzsche. Il disait qu'il ne pouvait lire qu'un seul journal, le journal des débats, et que l'existence d'un français comme Montaigne, d'un écrivain français comme Montaigne, augmentait 10 fois le plaisir de vivre sur Terre. Nietzsche s'intéressait justement à la France à laquelle moi je m'intéressais. Non pas à la France des conversations de salon, non pas la France polie et suave, peut-être trop polie, avec des propos badins, mais la France, et elle a existé pendant longtemps, elle existe encore, la France d'une pensée vivante et féconde, la France d'une perception du monde forte et vigoureuse. Mes écrivains français sont Montaigne, Diderot, Rimbaud, Breton, par exemple. Et si j'ai décidé de venir en France, c'est aussi, je l'ai su après, c'était par élan que je l'ai fait, mais je me suis rendu compte après qu'il y avait des liens très très forts entre mon pays natal et la France. Je savais pertinemment que je n'allais pas perdre mon temps à Oxford ou à Cambridge. Darwin décrivait ces universités anglaises comme intellectuellement stériles. Adam Smith décrivait comme des sanctuaires pour des systèmes périmés et des préjugés obsolètes. Donc il fallait venir à Paris pour trouver, pensais-je, une pensée poétique et intellectuelle forte. Le mot intellectuel existe en anglais, mais c'est un mot un peu louche. Difficile de prononcer le mot intellectuel en anglais. Tandis qu'en français, c'est normal. Donc, je disais bien que c'était un moment social intéressant. Je vais finir par parler. Si vous me voyez faire cela, ne vous inquiétez pas trop. Une autre raison pour venir en France, c'est que moi j'ai publié mes premiers livres à Londres. Et quand j'ai présenté mon quatrième manuscrit, mon éditeur m'a dit « Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Oui, vous êtes très près des Continentals, des Continentaux. C'est très intéressant. Oui, c'est formidable. Mais il faudrait mettre ça au frigidaire pendant 10 ans. Et en attendant, vous me ficelez un bon petit roman. Hein, et je fais un best-seller. On fait beaucoup d'argent. Je fais votre réputation. Et ensuite, on sortira la vraie littérature. » Alors, je dis « Non, pas question. Salut, au revoir. » J'ai été voir un autre éditeur anglais, je voyais que quelque chose était en train d'arriver. Ah oui, le dernier mot de mon premier éditeur, quand j'ai dit, écoutez, ça ne fait rien, pas de problème, j'irai en France, je le ferai éditer en France. Et il m'a dit, nous sommes à la fin, deuxième moitié des années 60, en Grande-Bretagne, et mon éditeur m'a dit, ah oui, mais la France est un pays littéraire. Alors je me suis dit, alors la Grande-Bretagne ne l'est plus. Shakespeare, Milton, où êtes-vous? Donc, j'ai été quand même voir un autre éditeur. Lui, il m'a dit à peu près la même chose parce que ce n'était pas un imbécile. Mais il disait, écoutez, oui, moi je sais que je vois ce qui vous intéresse et ça m'intéresse aussi, mais je ne peux pas vendre ça facilement. Et après tout, je suis dans l'industrie des loisirs. Un éditeur disant, I'm in the entertainment industry. Ah, je lui ai dit, écoute, pas moi. Pas moi, j'ai vraiment envie de faire autre chose et j'ai pris le bateau pour aller en France, parce que ce système, en gros, du fast-food littéraire et de la best-sellerisation n'était pas encore arrivé en France. Elle est en train d'arriver en France maintenant, 25 30 ans plus tard. Elle est en train d'arriver maintenant. Mais la France a bénéficié de 30 ans de retard sur ce système-là, qui n'est pas le meilleur système. Et il y a encore beaucoup de résistance en France heureusement, à ce genre de choses. Voilà donc la raison principale, la raison stratégique et tactique, disons, de ma situation paradoxale. Je sentais que la situation littéraire et intellectuelle en Grande-Bretagne allait être pendant longtemps assez lamentable. Et ce n'est qu'il y a 5 ans que moi j'ai renoué avec le contexte de la langue anglaise et le contexte de la littérature, anglaise, oui, anglaise. J'allais dire britannique, mais littérature britannique, ça ne veut rien dire. Littérature de langue anglaise. Voilà donc l'origine de ce paradoxe. Tout en optant pour la France et pour Paris, je n'ai jamais été comme un Américain à Paris, croyant que la France est le pays idéal et que Paris est le paradis. Personne qui vit à Paris ne peut penser de cette manière. Je dirais, dans le contexte de la conférence de ce soir, qu'il y a deux Frances littéraires. À mon avis, il y a deux Frances littéraires. Il y a une France littéraire des courtisans de la littérature. Ce sont les descendants de Versailles, le palais des courtisans. Il y a une certaine littérature française dont les habitudes et dont la pratique scripturale vient de là. Et puis, il y a les explorateurs, les écrivains explorateurs. Il ne s'agit pas d'une simple division entre conservateurs d'un côté et révolutionnaires de l'autre. Parce que voici un écrivain qu'on estimerait sans doute un écrivain révolutionnaire, ou du moins qu'il était au début. Il s'agit de Jean-Paul Sartre. Et voici Jean-Paul Sartre décrivant une situation dans laquelle il était impliqué. Voici donc Jean-Paul Sartre dans « Qu'est-ce que la littérature ?» Nous sommes, dit-il, les écrivains les plus bourgeois du monde. En d'autres pays, les possédés aux yeux dépolis s'agitent et bronchent sous l'emprise d'une idée qui les a saisis par derrière et qui n'arrive jamais à voir en face. Mais nous, bien avant de commencer notre premier roman, nous avions l'usage de la littérature. La centralisation nous a tous groupés à Paris. On nous rencontre tous ensemble, ou presque, dans certains cafés, au concert de la Pléiade et dans certaines circonstances proprement littéraires. De temps en temps, l'un de nous surmené fait annoncer qu'il part pour la campagne. Nous allons tous le voir. Il s'ennuie. Il revient. Au fond, dit-il, il n'y a que Paris. C'est à Paris que les écrivains de province, s'ils sont bien nés, se rendent pour faire du régionalisme. Notre route est tracée. C'est Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas M. Untel qui pourrait venir à l'esprit. Donc les écrivains français, la famille d'écrivains français que je sens être la mienne, c'est Blaise Sandra, avec sa prose du Transsibérien, qui ouvre le XXe siècle littéraire. C'est les surréalistes qui fréquentaient beaucoup plus Place Blanche et Place Clichy que Montparnasse et encore moins Saint-Germain. C'est Breton, c'est Artaud, c'est Michaud. Mais je n'oublie pas que nous parlons aussi de langue. Parler de littérature, mais bon, littérature basée sur la langue. Mais elle n'est pas que langue. Au moment où je parle à Paris, mais pas seulement à Paris, la discipline qui devenait presque la discipline de référence était la linguistique. La linguistique prenait une importance extrême fin des années 60 et pendant tous les années 70 et 80 d'ailleurs. Et vis-à-vis de la linguistique, je dois dire, en toute honnêteté, que j'ai longtemps partagé, j'ai continué à partager la critique de la linguistique faite par un linguiste même, un linguiste français. Il s'agit d'André Guillaume qui dit ceci à propos de la linguistique. Un grand savoir auquel réplique un petit comprendre. Mais, cela dit, il y a une recherche linguistique profonde qui m'intéresse, et ce champ d'exploration linguistique a été ouvert par Chomsky en 1957 avec ses structures syntactiques. Parce que la tentative de Chomsky par rapport aux langues était de trouver les structure fondamentale de toutes les langues, de trouver les patrons, les patterns syntaxiques fondamentaux, de trouver une grammaire structurale qui est latente à toutes les langues, quelles qu'elles soient. Il y a la même structure, dit-il, la structure profonde, deep structure. Il y a une grammaire mentale que tout le monde partage. C'est peut-être pour ça que la traduction est possible. Et le fait de vivre entre deux langues permet justement la comparaison entre les langues et une certaine contrastivité. Une langue écrit l'autre. Et à partir de ces deux langues, on peut s'ouvrir au langage, quelque chose de plus abstrait. C'est comme si... Moi, j'ai toujours eu la sensation que, en vivant entre deux langues, le français et l'anglais, C'était un peu, pour reprendre mon image du fleuve tout à l'heure, c'est un peu comme la Garonne qui se joint à la Dordogne pour devenir la Gironde. Il y a la Garonne et la Dordogne qui deviennent la Gironde et qui va vers la mer. Les exemples locaux sont évidents, hein, je vous laisse extrapoler. Donc soit on peut aller en aval, en quelque sorte, vers l'océan, ou bien on peut remonter à partir de deux langues à une source. On peut remonter en amont. Chomsky parlait donc de cette structure profonde, latente, dans toutes les langues. Mais disons que son approche était un peu abstraite, et certains linguistes français, notamment Guillaume, sentaient le besoin de rendre les choses plus concrètes. Parce qu'ils disaient, dès qu'on a affaire à une langue, on n'est pas dans les mathématiques, on a affaire à un parlant, à quelqu'un qui parle, ou qui écrit, mais c'est très proche. On a affaire à, dans le jargon linguistique, à un énonciateur en situation. Énonciateur, situation, mais lieu, les lieux de mon titre. Un porteur, Humboldt en Allemagne au XVIIIe siècle, parlait de la nécessité, pour qu'une langue existe, d'une énergie. Alors il n'y a pas d'énergie dans les structures de Chomsky. Et il faut qu'il y ait de l'énergie dans une langue. Si elle va avoir une force poétique, si elle va avoir une force communicative. Et moi j'ai toujours pensé que la plupart des linguistes considèrent la langue soit comme un instrument de communication, et elle l'est, bien sûr. La langue est un instrument de communication, mais elle est aussi plus. C'est la langue, c'est l'expression d'une exaltation aussi, qui n'a pas besoin nécessairement de communiquer tout de suite. C'est une bouffée de jouissance aussi, une expression linguistique. Ce n'est pas communication immédiate. Ou bien, il s'occupe de systèmes de représentation du monde, la manière dont on se représente le monde. C'est vrai qu'une langue est un programme, c'est un programme de vision. Selon la langue qu'on utilise, on a une certaine vision du monde, c'est vrai. Mais m'intéresse encore plus, au-delà de la représentation, une présence. C'est-à-dire que pour moi, la linguistique débouche sur la poétique. L'horizon de la linguistique, c'est la poétique. Et on va vers quelque chose de, avec cette idée-là, ces deux approches linguistiques, structure profonde et en même temps énergie, à quelque chose d'abstrait et concret à la fois, à une sorte d'abstraction concrète. Et cette abstraction concrète était représentée par moi par les Pyrénées, la rangée des montagnes des Pyrénées, où j'ai vécu 17 ans. Voici donc l'avant-dernier lieu, les Pyrénées. J'y ai vécu à partir de 1967, c'était mai 68, certaines ressemblances avec certaines situations ici en ce moment. Et en mai 68, moi, je m'étais activé socialement d'une certaine manière, de sorte que je me trouvais au chômage pendant un certain temps, ce qui m'a permis d'avancer mes travaux. Et j'ai travaillé à ce moment-là dans un appartement face aux Pyrénées, face à cet horizon de montagne, avec une petite phrase au-dessus de ma table de travail, une phrase de Hölderlin, le poète allemand, « La lumière philosophique à ma fenêtre. La lumière philosophique à ma fenêtre. » Je lisais à ce moment-là aussi beaucoup Husserl, le phénoménologue, qui disait qu'il fallait essayer de mettre le monde entre parenthèses, afin de voir les choses clairement. Mettre le monde conventionnel entre parenthèses et essayer de rafraîchir sa vision, phénoménologie. Et puis je lisais beaucoup Heidegger, qui parle de district originel, de lieux inédits, dont, dit-il, la philosophie ne connaît rien. Il y a une tentative de sortir de la philosophie pour penser d'une autre manière. Voilà donc ma philosophie occidentale, mais je me tournais beaucoup à ce moment-là aussi vers une pensée extrême orientale, qui a de toute autre base. Je n'entre pas dans les détails ce soir, ce serait un autre sujet. Mais avant de l'aborder par des citations concrètes, en Chine, dans la culture classique chinoise, on fait une distinction encore utile à mon avis, comme celle que j'ai donnée tout au début pour les écrivains. On fait une distinction entre les intellectuels du marché, c'est-à-dire ceux qui s'agitent, ceux qui font le commerce des idées, et les intellectuels de la montagne qui sont engagés dans une activité profonde et de longue haleine et qui peuvent rester en silence longtemps. Et à ce moment-là, maintenant je ne vais pas commenter, je vais simplement vous balancer quelques phrases de textes extrêmement orientaux, sans commentaire, pour qu'ils frappe votre esprit et que vous viviez éventuellement, si cela vous dit, avec. Voici des koans. Des koans sont des phrases à creuser. Ce ne sont pas des questions avec une réponse, ce sont des phrases qu'il faut méditer longtemps afin d'entrer en communication avec le monde. Voici quelques phrases, pas plus. Marche seul sur le ciel rouge. À chaque pas, le vent pur. Même une bonne chose ne vaut pas le vide. Un pin solitaire murmure dans la brise. Maintenant que je me suis complètement dépouillé, une seule vraie réalité existe. La flûte sans trou est la plus difficile à jouer. Comment la poule peut-elle comprendre quelque chose aux aspirations du cygne sauvage? Et voici quelques haïkus, des petits poèmes de méditation. Dans ce monde illusoire, je cultive des oignons, solitude. Un étang au plus profond de la forêt, épaisse la glace. Dans le grand silence, le bruit de la cigale pénètre même les rochers. Ils ne dirent pas un mot, l'hôte, l'invité et le chrysanthème blanc. Et dernier exemple, ah, le mont Fuji, dessiné d'un doigt sur une vitre givrée. Voilà un haïku que je vais commenter un tout petit peu, on pourrait passer une heure là-dessus. Mais voici quelqu'un qui se lève le matin dans une auberge à la campagne et qui, sur la vitre givrée, dessine le Fuji. C'est-à-dire qu'il dessine un symbole sacré. Mais, c'est tôt le matin, il sait pertinemment que le soleil va se lever, le givre va fondre, le symbole sacré va disparaître, on va aller au-delà du sacré, il ne restera qu'une vitre claire à travers laquelle on va pouvoir voir le monde. Là, on est en pleine géopolitique. Dante a parlé de la divine comédie, Balzac a parlé de la comédie humaine, Malraux après lui, Valéry, lui, parlait d'une comédie intellectuelle à venir. Ce dont j'essaie de vous parler là, c'est une sorte de comédie poétique et intellectuelle. Barthes, à un moment donné, vis-à-vis de l'Orient, a écrit L'Empire des Signes. Moi, j'ai écrit un livre qui est un peu, dont le titre répond un peu à cela, mais essayons d'aller plus loin. Ce n'était pas L'Empire des Signes, c'était Les Signes Sauvages. Mais Signes, C-Y-G-N-E-S. Mes oiseaux du début. Et dernier lieu, la Bretagne, ou, comme je préfère dire, le promontoire armoricain. Pas la province. Je trouve que ce vocabulaire, Paris et la province, est vraiment désuet. À l'époque de communication qui est la nôtre, on peut très bien vivre à 300 km, à 500 km d'un centre et être tout autant branché, tout autant présent. Donc ce vocabulaire est vraiment à rejeter, de même sans doute que centre et périphérie, parce que la périphérie peut être une ouverture océanique. Et moi j'aime bien l'idée de vivre sur un promontoire face à l'océan. C'est aussi, je dirais en passant, un lieu stratégique en plein milieu de l'arc Atlantique. Un lieu, un espace qui m'intéresse beaucoup. Et dans cette situation-là, en ce moment, vis-à-vis de la situation culturelle générale, le fast-food dont je parlais tout à l'heure, l'invasion de toutes sortes de produits d'ersatz que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de m'étendre. Je me sens, pour ce qui est de mes affinités électives, proche d'eux, et j'ai des citations de ce genre collées à mon mur. Fenollosa, le philosophe de l'art américain, parlant de Michel-Ange, résistant tout seul, comme un grand promontoire à moitié submergé à la médiocrité d'un Cinquecento trivial et corrompu. Il y a une certaine résistance culturelle nécessaire aujourd'hui. Pessoa, poète portugais, qui réclame une figure de poète, qui recherche ardemment l'immortalité, sans se préoccuper de la renommée qui n'est que bonne pour les actrices. Il va dire aussi, après Nietzsche, mais en complexifiant un peu Nietzsche, le surhomme sera non pas le plus fort, mais le plus complet. Le surhomme sera non pas le plus dur, mais le plus complexe. Le surhomme sera non pas le plus libre, mais le plus harmonique. Et pour terminer, Pessoa envisage une situation complètement à part. Moi qui suis de la race des navigateurs, j'affirme que cela ne peut pas durer. Moi qui suis de la race des découvreurs, je méprise tout ce qui n'est pas au moins la découverte d'un nouveau monde. Quelqu'un en Europe soupçonne-t-il au moins de quel côté se trouve le nouveau monde, qui reste à découvrir? C'est le monde ouvert dont je parle. Qui donc saurait se tenir en un sagre quelconque? Donc un nouvel espace culturel à trouver. J'ai parlé ce soir en termes de monde ouvert et en biologie, parce que le champ qui m'intéresse, le champ géopolitique, j'arrive maintenant déjà au thème de demain soir, est transdisciplinaire. Il y a là-dedans des physiciens, des biologistes, des écrivains, des géographes, des artistes, toutes sortes de gens, c'est transdisciplinaire. Et en biologie, on parle depuis un certain temps de l'être humain comme un système ouvert. On va dire en biologie que la vieille image de l'homme éclate de toutes parts. Ce n'était qu'une illusion. Ce n'est pas parce que l'homme disparaît et s'efface comme à la limite de la mer un vase de sable que nous devons pleurer sur nous-mêmes. L'homme qui s'efface, ce n'est pas nous. Ce n'est, comme l'a si bien montré Foucault, qu'un absolu imaginaire qui a joué un rôle commode dans le développement des connaissances en Occident. Cet homme-là, cet être humain-là, cette image de l'homme est en train d'être remplacée par des choses. Des choses, certes, mais où nous pouvons nous reconnaître, on peut se reconnaître dans le monde environnant, c'est ce dont j'ai parlé tout au début, le héron blanc, la clarté de la lune, dans un autre langage, mais les biologistes occidentaux sont en train maintenant de parler en ces termes. Cet homme qui est en voie d'être remplacé par des choses, mais où nous pouvons nous reconnaître parce qu'elles peuvent nous parler. Les choses peuvent nous parler. Il y a un langage, justement, qui reste à découvrir dans l'univers qui nous entoure. Quand nous découvrons une structure dans les choses, n'est-ce pas retrouver de façon renouvelée et épurée un langage que les choses peuvent nous parler? Et est-ce payer trop cher ces retrouvailles que de constater au passage que notre propre langage naît dans le fond pas radicalement différent de ce langage des choses? Le langage de l'être humain et le langage de l'univers peuvent être un seul langage. Et Atlan, c'est le biologiste en question, arrive à la fin de son exposé biologiste à parler d'une existence unifiée. Une existence unifiée. C'est notre rêve, je pense, à tous. Existence unifiée, c'est de ça que j'ai essayé de parler devant vous ce soir dans cette conférence. Monde ouvert, lieu, langue, culture. Merci de m'avoir écouté.
Kao što je običaj u ovoj sali i ovakvoj organizaciji, ako neko želi povodom ovog predavanja gospodina Bajta da nešto pita, izvolite.
Ça c'est toujours le moment fatidique. Ah, ben. Ah. Une petite technique ici.
Vous rêvez dans quelle langue?
Pardon. Oui, oui. Là, j'en ai... Oui.
C'est question français.
On me demande dans quelle langue je rêve.
Oui.
Voilà. Moi, je rêve depuis un certain temps, indifféremment. Vous êtes écossaise, n'est-ce pas? Oui. American, ok. Ah oui, ben, vous avez des ancêtres écossais. je rêve indifféremment en anglais ou en français. Et je crois qu'on commence effectivement à être un peu à l'aise dans une langue étrangère quand on commence à faire trois choses. Rêver dans cette langue, jurer dans cette langue, c'est très important, et compter en cette langue. Les trois choses. Ben voilà, voilà. Ben voilà, c'est très difficile, très difficile. Oui. Jurer, rêver et compter. Ouais.
Vous avez pensé de langage. Que pensez-vous de Roland Barthes et de cette théorie de...
Pardon, excusez-moi.
Vous avez parlé de langage, de Lévi-Strauss, etc. Que pensez-vous des théories de Roland Barthes?
De
Roland Barthes.
Bon. Roland Barthes est quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé, notamment le degré zéro de l'écriture. Hein? Aussi, l'Empire des signes sur la culture japonaise. Donc, il y a certains livres de Barthes qui m'importent au plus haut point. Je vais vous répondre anecdotiquement aussi. J'ai un ami qui voulait, à un moment donné, faire de la sémiotique dans une université. Il a été voir Barthes. C'était le Barthes vers la fin de sa vie, quand il commence à écrire le plaisir du texte. Et cet étudiant en herbe lui a dit, écoutez, monsieur Barthes, je vais faire de la sémiotique. Et Barthes lui a dit, non. Lisez de bons textes. OK.
Hvala vam na pažnji i naravno još jednom pozivam da sutrašnje večer u Atelje 212 u holu na prvom spratu bit će predstavljena knjiga gospodina Vajta i razgovor koji će biti dijaloški i sa više glasova.
C'est vrai, l'essentiel n'est pas de poser des questions. Artaud, un des écrivains que j'aime beaucoup, disait la vie c'est de brûler les questions. C'est de s'en aller avec des idées et de laisser les idées croître dans sa tête avec celles qui sont déjà là. C'est ça le vrai travail. Bonsoir, salut. Oui.